Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors ce matin, je vais garder le masque. Je préfère garder le masque. Alors c'est vrai, on me fait signe de l'enlever. Je reconnais que c'est mieux, mais je vais le garder quand même. Parce que cette semaine, j'ai été cas contact. Et voilà, il vaut mieux être prudent. J'ai fait un test hier qui s'est révélé négatif. Je suis vacciné, donc je ne suis pas soumis à l'isolement. Voilà, mais je suis soumis à la prudence. Et donc il vaut mieux que je garde le masque et que lorsque je discuterai avec vous à la fin du culte, ça soit à l'extérieur et avec un peu de distance. Alors je vais prier. Notre Père, merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour ta parole qui agit. Merci parce que tu agis à travers tes serviteurs, à travers chacun de nous, non pas seulement en prison, mais aussi par notre présence dans le monde, que ce soit en prison ou ailleurs. Tu agis par ton esprit et tu nous inspires, même lorsque nous nous sentons démunis ou incapables. Notre Père, nous te prions pour que ta parole encore agisse dans notre vie et qu'elle puisse, jour après jour, transformer encore notre cœur pour que nous marchions à ta suite et pour ta gloire. Rends-nous attentifs et bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, à Silas, mon frère dans la foi, mon collaborateur et aussi ancien compagnon de cellule. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre Seigneur. Me voici à nouveau emprisonné dans une cellule, à Rome cette fois-ci. Je continue de louer le Seigneur chaque jour. Dieu est fidèle et je sais qu'il m'a amené, une fois de plus, en prison, pour continuer de le servir. Je ne cesse de dire ma reconnaissance, car le Seigneur m'encourage encore aujourd'hui. Je me souviens du temps que nous avons passé ensemble en Macédoine, en particulier dans la prison. C'était le Saint-Esprit qui nous avait guidés jusque dans notre sombre cellule. Nos pieds étaient emprisonnés dans les entraves pour la gloire de Dieu. En effet, sa puissance s'est manifestée alors que nous étions en train de le louer et que les autres détenus étaient en train d'entendre, d'écouter les merveilles de Dieu à travers nos chants. Te souviens-tu de cette nuit où nous avons compris que nous avons été emprisonnés pour témoigner et sauver le geôlier ainsi que sa famille? Je suis certain que tu t'en souviens comme si c'était hier. Ce souvenir, comme beaucoup d'autres, reste un sujet de louange et il m'encourage aujourd'hui à persévérer malgré les épreuves et les souffrances que j'endure. Dieu nous place parfois dans des endroits les plus indignes, car la parole de Dieu doit être proclamée partout et à tous. Le Maître nous utilise partout et tout le temps. Mon cher Silas, je continue de prier pour toi et pour tous nos frères et sœurs que je te demande de saluer. Quelles que soient nos situations, je prie qu'elles soient des occasions de louer Dieu et de témoigner de sa grâce. Alors cette lettre imaginée, inspirée de la vie de Paul, fait référence à l'épisode où Paul et Silas ont été emprisonnés. C'est le passage que Géraldine nous a lu tout à l'heure. Et pour la prédication de ce matin, je vous propose de lire ce texte, de relire ce texte, en reprenant à partir du verset 16 pour voir le contexte. Donc nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 16 à 40. Actes 16, versets 16 à 40. « Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'annoncer, d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et les a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À 7 heures de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes !» Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. « Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais Paul a dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question. » Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient Romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Ce texte est surprenant à plusieurs égards. L'auteur mentionne tout d'abord une femme possédée par un esprit de divination. Une femme avec un esprit de divination. Cette femme est aussi esclave. Elle servait de gagne-pain pour ses maîtres. Elle est donc doublement asservie. Elle est asservie par l'esprit de divination et par ses maîtres, qui se servent d'elle pour leur profit personnel. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle annonce le chemin du salut en approuvant les paroles de l'apôtre Paul. Alors cela nous pose question, cet esprit de divination serait-il au service de Dieu ? Existerait-il de bons esprits de divination ? Mais nous voyons que l'apôtre Paul est agacé par cette femme. Il n'aime pas ce qu'elle fait. C'est au point où il chasse cet esprit au nom de Jésus. Alors pourquoi Paul était-il si mal à l'aise ? Eh bien, c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens fassent l'amalgame entre le message d'un esprit de divination et le message de Jésus. Si Paul avait laissé cette femme agir, certaines personnes se seraient dites « Regardez, l'apôtre Paul et l'esprit de divination sont associés. Ils ont le même message. On peut donc faire confiance à cet esprit de divination et probablement à tous les autres. » Mais Paul ne voulait pas que les gens soient trompés. L'esprit de divination ne vient pas de Dieu. Ce mauvais esprit veut juste récupérer le témoignage de l'apôtre Paul et s'en servir pour tromper, pour séduire les gens. Il fallait donc que cet esprit cesse de nuire et Paul l'a chassé au nom de Jésus. Et on voit que le nom de Jésus a chassé ce démon. Ce passage nous montre que même après la mort de Jésus, les mauvais esprits peuvent encore agir. Mais il faut savoir que Jésus les a déjà vaincus et on le constate ici. Paul a pu chasser l'esprit au nom de Jésus. Cependant, ces esprits ont encore un champ d'action car la victoire finale sera totalement effective à la fin des temps. La terre, telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas le paradis. Il y a le péché, la maladie et les démons qui font encore des dégâts. Mais la Bible enseigne qu'à la fin des temps, la terre sera renouvelée. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il n'y aura plus de mort, plus de larmes. En attendant, nous sommes invités à vivre sur cette terre en portant le témoignage du Christ. Et nous sommes invités à faire aussi preuve de discernement, tout comme l'apôtre Paul. De nos jours, la magie est à la mode. Les esprits de divination sont actifs à travers les médiums, les sorciers, les devins, les astrologues, etc. Ne confondons pas le Saint-Esprit et les autres esprits qui ne sont pas de Dieu. Et le comportement de Paul est un exemple. Il se souciait du témoignage qu'il rendait. Il ne voulait pas être associé à un autre esprit que le Saint-Esprit, celui du Christ. Nous aussi, dans nos activités, dans nos loisirs, dans ce que nous postons sur Facebook, dans ce que nous disons lors de nos rassemblements, dans ce que nous disons devant nos enfants, dans notre comportement au travail ou partout ailleurs, soyons attentifs aux témoignages que nous rendons en tant que disciples du Christ. Alors revenons à notre texte. Après avoir chassé l'esprit de divination, les maîtres de la femme qui était possédée sont en colère. C'est leur gagne-pain qui s'est envolé. Et remarquez que ceux qui font appel à des esprits de divination ont pour objectif leur propre intérêt. Ils ont pour objectif ultime l'argent et non pas le salut des âmes. Et lorsque l'on se met au courant un peu de ce qui se passe autour de nous, au niveau des sorcelleries, au niveau des sorciers, des médiums, quel est leur intérêt ? Est-ce que c'est le salut des gens ou est-ce que ce sont les revenus ? Alors les maîtres de la femme, ces hommes qui tiraient profit de cet esprit de divination, ces hommes cherchent à faire du mal à Paul et Silas. Il les accuse de nuire à l'ordre public et à la religion juive ou romaine. Et la foule se joint à leurs accusations. À cause de cela, les autorités les arrêtent, les fouettent et les mettent en prison. C'est mon deuxième point. Paul et Silas sont emprisonnés. Et voici ce que nous pouvons lire au verset 23 et 24. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. On voit que les juges précisent bien que nos deux hommes doivent être surveillés de près. C'est une consigne ferme et le gardien devait les avoir à l'œil. Paul et Silas sont traités comme les pires hors la loi. La prison était intérieure, c'était la prison la plus surveillée. C'était la prison réservée aux grands criminels et leurs pieds sont liés dans des entraves. Une fois emprisonnés, Paul et Silas prient et louent le Seigneur. Pourquoi louer Dieu alors qu'ils viennent de se faire injustement torturer et jeter en prison? Pourquoi louent-ils Dieu? Cette question nous amène à une autre question. Nous, pourquoi louons-nous le Seigneur? Est-ce que c'est parce que nous allons bien? Ou est-ce que c'est parce qu'il est digne de louange? Dans le premier cas, si nous louons le Seigneur parce que nous allons bien, finalement, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Je vais bien, donc Dieu mérite d'être loué. Mais lorsque je me retrouve dans l'épreuve, cela voudrait-il dire que Dieu ne mérite pas ma louange? Il m'offre pourtant son pardon, il m'offre la vie éternelle, alors que je ne le mérite pas. Par grâce, il m'offre sa présence tous les jours. En fait, Dieu est digne de louange indépendamment de notre situation. On est appelé à glorifier Dieu parce qu'il est notre Dieu. Et en l'adorant simplement pour le glorifier, notre louange est vraiment centrée sur lui et non sur nous-mêmes. Paul et Silas ont fait preuve d'humilité. Ils sautent au fond du cachot, mais ils reconnaissent Dieu comme étant leur Seigneur digne de louange. Ils s'estiment être des serviteurs de Dieu, emprisonnés pour le glorifier. Et que se passe-t-il pendant qu'ils chantent? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers les écoutaient. L'auteur précise que les autres prisonniers les écoutaient. C'est bien précisé qu'ils écoutaient et non pas qu'ils entendaient. Les autres détenus, des bandits, des malfaiteurs, des criminels, étaient donc intéressés par le message de Paul et Silas. Et Dieu les a utilisés pour témoigner dans leur situation. Et c'est alors que Dieu envoie un tremblement de terre qui provoque l'ouverture des cellules et des entraves qui tenaient leurs pieds. Une fois de plus, Paul et Silas se comportent de manière surprenante. Ils ne se disent pas « Chouette, Dieu nous libère !» Non, ils se disent « Comment est-ce que Dieu veut utiliser cette situation pour encore témoigner ?» Ils n'en profitent pas pour s'enfuir. D'ailleurs, aucun prisonnier ne s'enfuit. On ne sait pas pourquoi les autres prisonniers sont restés. Peut-être qu'ils étaient secoués, ils étaient déboussolés. On ne sait pas. En tout cas, nous savons pourquoi Paul et Silas ne se sont pas évadés. Parce qu'ils voulaient épargner le garde et le sauver. Parce qu'à l'époque, les gardes qui laissaient s'évader des prisonniers, d'ailleurs, en plus, le juge avait dit « garde-les de près ». Donc, Paul et Silas ne devaient vraiment pas s'évader. Et bien, à l'époque, lorsque les gardes laissaient s'évader des prisonniers, eh bien, ils étaient violemment mis à mort par les autorités. C'est pour cela que dans le texte, le garde avait projeté de se suicider. Il pensait que les prisonniers s'étaient évadés et il ne voulait pas subir le châtiment réservé aux gardiens qui laissent les prisonniers s'enfuir. Mais avant qu'il ne passe à l'acte, Paul l'arrête, verset 28. « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » En entendant ces paroles, et après avoir frôlé la mort de près, le garde prend conscience qu'il faut réfléchir sérieusement à ce qu'il y a après la mort. Il pose cette question aux disciples. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voici la réponse de Paul et Silas au verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et c'est bien ce qu'il fit. Dans la même nuit, Paul et Silas annoncent l'évangile à la famille du garde. Tous acceptent Jésus dans leur vie et se font baptiser. Dans la Bible, le baptême est un moyen par lequel on exprime, on manifeste, on montre par un geste sa foi en Jésus. Et à l'époque de Paul et Silas, le baptême avait lieu au même moment que la conversion. Alors pour conclure, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce texte? Dans cet épisode, Paul et Silas bénéficient d'un miracle de Dieu. Les portes de la prison s'ouvrent et leurs pieds se détachent. Devant ce miracle, ils avaient deux possibilités, notamment deux possibilités principales. Soit profiter du miracle pour eux-mêmes, ou alors se servir de ce miracle pour servir Dieu. Autrement dit, s'échapper ou rester en prison pour annoncer l'évangile. Ils ont choisi la deuxième possibilité. En fait, dans tout ce qui leur arrive, ils considèrent cela comme des occasions pour mettre Dieu en avant et le servir. À mon avis, même lorsqu'ils réclament des excuses ensuite, avant d'être libérés, c'est pour servir l'évangile. Il semblerait qu'ils aient fait valoir leurs droits pour faire comprendre aux autorités que les chrétiens ne doivent pas être accusés à la légère. Ils ne sont pas des fauteurs de troubles ou une menace pour l'Empire romain, d'autant plus que certains d'entre eux sont romains. Ce genre de texte me fait dire que toutes les situations par lesquelles nous passons, que ce soit les privilèges de la vie ou les difficultés de la vie, tout ce que Dieu permet dans la vie, nous pouvons le transformer en occasion de louange et de témoignage de l'Évangile. Même confiné dans une cellule de sous-sol, avec les pieds attachés, Paul et Silas, en louant Dieu, ont rendu témoignage au Seigneur. Malgré les chaînes, ces deux hommes étaient libres, libres de l'esclavage du péché, et ils ont pu annoncer le message qui libère réellement. Le témoignage n'est pas réservé aux aumôniers, il n'est pas réservé aux évangélistes. Le témoignage est possible partout et tout le temps. Et lorsque l'on se sent démuni et incapable, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est le Saint-Esprit. Paul et Silas ont simplement loué Dieu, et c'est Dieu qui a provoqué le tremblement de terre. Que Dieu nous aide à être ses adorateurs, quelle que soit notre situation, louons-le et proclamons le message qui libère. Amen. Pour faire suite à ce texte, je vous propose de chanter.